franceinter.fr. La revue de presse d'Olivier Bénis. Bonjour Olivier.
Bonjour Patricia.
La presse évoque ce matin largement l'interview de François Hollande hier soir sur France Inter.
L'occasion pour le Figaro de se demander où va François Hollande, qui laisse encore planer le doute sur sa candidature en 2017. Confidence d'un parlementaire. En 2014, on nous expliquait que s'il ne repartait pas à la hausse dans les sondages, c'était plié. On est 2 ans plus tard, il est toujours à 20%. Jamais il ne sera réélu. On voit tous la catastrophe arriver. Du coup, il y a, il le dit, une vraie opportunité risquée, mais peut-être payante, à se lancer sans attendre comme candidat avant le président. Celui qui aura le courage de sortir du bois le premier ramassera la mise, assure un élu socialiste. Guillaume Tabar voit, lui, dans cette hésitation soigneusement entretenue, une tentation Schröder du président français, bousculer et dérouter son propre camp, mais finalement redresser le pays. Une sorte de logique sacrificielle, car il le rappelle, l'audace du chancelier allemand s'est payée d'une défaite électorale avant d'être encensé avec le recul. Pour Libération, la réforme du droit du travail s'inscrit pleinement dans cet esprit de sacrifice, mais un sacrifice dans lequel le quotidien ne voit aucun avantage. Vous êtes sûr, demande Libé sur sa une, tout en assurant que là, cette fois, l'idée de faire tomber le gouvernement n'est plus tabou en cas de 49-3. Personne ne comprend ce qui se passe, se désole Sandrine Mazetier, députée PS de Paris. À Solferino, on plaint même par avance la ministre du Travail, Myriam El Khomri, attendue le 7 mars devant le bureau national du PS. Là-bas, on prévient déjà, elle va en bouffer de la cage aux fauves.
De son côté, le Parisien se demande si le référendum est vraiment la solution miracle en démocratie.
Vive le référendum, titre-t-il, avec un gros point d'interrogation. Alors qu'on attend celui, déjà très contesté à la fois par les partisans et par les opposants, sur Notre-Dame-des-Landes, voilà en une page un mini-référendum sur l'utilité des référendums en général. Vive le référendum, oui, pour Hervé Mariton. J'assume qu'au-dessus de moi, il y a la volonté du peuple, explique le député Les Républicains. Je n'ai pas peur de la démocratie, même s'il le dit, un référendum ne dispense pas l'exécutif de faire preuve de courage, comme sur la question de l'aéroport nantais, justement, où il trouve que le référendum arrive trop tard. Un référendum permet de clore un débat, de trancher sur une question difficile avec une légitimité supérieure à la loi. Et c'est bien ce qui pose problème pour Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel. Le référendum, pour lui, c'est la transposition en politique d'un fonctionnement qui relève du religieux. Le peuple prend la place de Dieu, il ne peut pas se tromper et n'a donc pas à être contrôlé. Il n'y a aucun contre-pouvoir à celui du peuple. Et d'ajouter que de toute façon, nous vivons dans une société complexe où il est rare qu'un problème puisse se résoudre par un oui ou par un non. Tiens, puisqu'on parle de questions complexes, la fameuse déchéance de nationalité, un sujet qu'on imaginait simple sur le papier et qui pourtant pose de nombreuses questions et en posait avant même qu'on envisage de l'inscrire dans la Constitution. Libération raconte ce matin une histoire, celle de 6 personnes condamnées pour des liens avec un groupe terroriste, libérées entre 2009 et 2010, parfaitement réinsérées depuis et à qui on vient de prendre leur passeport et leur carte d'identité. Déchus de leur nationalité pour de bon, obligés de faire une demande de titre de séjour. Une décision incompréhensible après 6 ans sans aucun écart et pour des raisons très floues. On reproche à l'un d'avoir fréquenté en prison le djihadiste Jamel Begal et l'un des frères Kouachi. Begal était à l'isolement, explique-t-il. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Quant à Chérif Kouachi, c'est un type que je croisais en promenade, comme tous les détenus. Un autre est déchu parce que Sid Ahmed Glam, le terroriste qui projetait un attentat à Villejuif, se serait procuré des armes auprès d'un employé d'une crêperie où il allait dîner moins d'une fois par mois. Pire, maintenant qu'ils n'ont plus la binationalité, il faudra quand même qu'ils restent en France, explique l'un de leurs avocats. Au vu des risques évidents qu'ils courent au Maroc et en Turquie, il serait illégal qu'ils soient remis dans un avion pour leur pays d'origine. Ils vont donc être assignés dans un petit hôtel de Lozère, séparés de leurs femmes et leurs enfants. Ça va coûter des milliers d'euros par mois à la collectivité. C'est une absurdité absolue à tous les égards.
On célèbre demain donc le centenaire de la bataille de Verdun.
L'occasion pour la Croix de rappeler, de proposer pardon, un passionnant décryptage sur Verdun, ou plutôt sur les raisons qui ont fait de cette bataille mythique que tout le monde connaît, alors même que ce n'est ni la plus meurtrière, ni la plus décisive stratégiquement. Depuis plusieurs années, les historiens se penchent sur la construction puis l'évolution de ce qu'ils appellent, faute d'un meilleur terme, un mythe national. Verdun, c'est d'abord une décision politique, une métaphore du sol national que l'on doit défendre à tout prix, explique Antoine Prost. Le 20 novembre, alors que la bataille n'est même pas achevée, la ville de Verdun crée une médaille pour honorer les soldats qui y participent et devient immédiatement un lieu de célébration patriotique. Puis dans les années 70-80, on va à nouveau changer l'image de Verdun, de symbole de l'héroïsme. Elle devient symbole des victimes de la nation. Avant d'évoluer à nouveau en 84 avec cette fameuse image de François Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main, qui selon les historiens dénationalise Verdun et en fait le symbole du sacrifice global de millions d'hommes à des intérêts nationaux égoïstes. Paradoxal pour ce que les dirigeants de l'époque avaient construit comme le symbole du sacrifice, mais pour ses intérêts nationaux.
8h36 sur France Inter, il y a les militants politiques et puis il y a les fans.
Nelly appartient à la seconde catégorie, fan absolu de Nicolas Sarkozy. Le Parisien dresse son portrait ce matin. Nelly, c'est le pseudo de cette guérillera des réseaux sociaux, Nelly NS 2017 plus précisément, qui s'est découvert une passion pour le leader des Républicains en 2012 après la défaite à la présidentielle. « Je ne comprenais pas l'acharnement terrible sur cet homme », explique-t-elle. « J'ai voulu voir si tous ces reproches et cette haine à son égard étaient justifiés et je me suis rendu compte qu'il a fait beaucoup plus que tous les autres présidents de la Ve République. » Dès lors, elle laisse tomber sa carrière de chanteuse de balmusette et se lance à corps perdu dans le militantisme sur Internet. Un compte Twitter, une page Facebook Nicolas Président 2017, 14 000 fans au compteur, et trois blogs Peuple de France, tout sur Nicolas Sarkozy et Front anti-Hollande, un sacerdoce qui lui prend parfois jusqu'à 15 heures par jour. Face à un tel dévouement, on ne peut qu'espérer voir l'ancien président lui envoyer un jour quelques fleurs en remerciement, mais attention, surtout pas de rose rouge. Autre fan 2.0, ceux des sportifs professionnels. L'Équipe Magazine nous apprend aujourd'hui que pour suivre ses idoles, le lieu idéal ce n'est plus le stade, mais Instagram, le réseau social de partage de photos. Les sportifs en seraient fous et leurs supporters encore plus puisque ça leur permet de se glisser dans la vie privée des champions. On est dans la communication par l'émotion, ce que les sportifs véhiculent très bien, explique un agent. Jugé plus tôt, 58 200 personnes ont aimé les photos de Serena Williams qui annonçait la mort de son petit chien le 24 novembre dernier. 100 000 ont apposé un petit cœur sous Lionel Messi en train de manger une tartine. Anecdotique, pas totalement. C'est aussi un formidable outil de communication, nous dit le magazine. Le champion de MMA Conor McGregor peut ainsi briser son image de combattant brutal en se mettant en scène en mari dévoué qui lit des livres sur la diététique. Ou Karim Benzema balayait ses soucis avec la justice par un joyeux anniversaire ma fille d'amour accompagné de petits cœurs. Sur Insta, même les footballeurs sont tous des bros, des potes aux millions d'abonnés.
Vous avez vu qu'il y a aussi Laurent Geoffrin sur Instagram.
On l'a vu aussi.
Ouais, et c'est quand il passe l'aspirateur. On termine cette revue de presse avec un animal méconnu, Olivier.
C'est le tardigrade. Alors, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Moi-même, je l'ai découvert tout à l'heure. Pourtant, c'est un animal fascinant. Le Figaro lui consacre une demi-page ce matin. Pourquoi ? Parce que le tardigrade a un super pouvoir. Cette bestiole à 8 pattes minuscules, jamais plus de 2 mm, et globalement assez moche, est aussi incroyablement résistante. Jugée plus tôt, des scientifiques viennent de prouver qu'elle pouvait revenir à la vie après 30 ans de congélation. On appelle ça la cryptobiose. En 1983, plusieurs tardigrades avaient ainsi été prélevés en Antarctique, immédiatement congelés. Plus de 30 ans après, ces mêmes tardigrades se sont réveillés et l'un des deux spécimens a non seulement survécu, mais il s'est immédiatement mis à pondre des œufs parfaitement viables. Un pouvoir qui fait rêver les chercheurs qui se demandent à quel point l'animal est résistant. Attendez une minute, très résistant, capable d'hiberner parfois pendant des années avant de revenir presque plus fort qu'avant. On croirait lire le portrait de certains responsables politiques français. Allez chiche, au prochain comeback on ne parlera plus de phénix qui renaît de ses cendres, mais on dira c'est un véritable tardigrade.